Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir à la une. Trois grands sujets ce soir. La réforme des retraites, état des lieux en ce début de semaine. Les municipales avec Anne Hidalgo en campagne à Paris. Et le Royal Accord conclu par la reine d'Angleterre. C'est dans les informés avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Avec Mayada Boulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Xavier Couture, consultant audiovisuel, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bienvenue à tous les quatre, ravi de vous retrouver.
Bonsoir Jean-François.
Nous sommes
Bonsoir.
Ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur France Info. L'âge pivot retiré ou simplement suspendu, essayons de comprendre. Une des conséquences de la grève, d'ailleurs le procès du père Prénat suspendu jusqu'à demain à Lyon. Et cela restera sans doute l'une des phrases clés de ce si long conflit social. Édouard Philippe, le Premier ministre, hier soir sur France 2.
Nous allons aller au bout. Et que donc, au fond, tous ceux qui les incitent à poursuivre la grève les envoient peut-être dans une impasse.
Donc ça veut dire quoi? Vous leur dites, il est temps que la grève s'arrête?
C'est eux qui la font. Moi, je ne prends pas les décisions à la place des autres. Je pense qu'ils devraient prendre leurs responsabilités. Et surtout, je constate que la décroissance progressive du nombre de grévistes dans les entreprises de transport, car ce sont essentiellement elles dont les agents sont en grève, cette décroissance progressive est réelle. Je pense que vous connaissez cette phrase, hein, il faut savoir terminer une grève.
Mayada Boulos, cette phrase en question, il faut savoir terminer une grève, elle est un peu une sorte de tournant psychologique de ce conflit?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que techniquement, il n'y a aucun lien entre le fait de rallier la CFDT et le fait que la grève s'arrête, puisque la CFDT, comme on le sait, n'est pas le syndicat majoritaire ni à la SNCF ni à la RATP. Mais il y a trois choses. Il y a d'abord le sujet financier. Hein, et ce n'est pas absolument pour rien, je pense, qu'ils fixent la réunion de concertation au 10 janvier, c'est-à-dire en janvier. Ça fait quand même un certain moment, 40 jours, que les salariés sont en grève. D'autant, il ne faut pas l'oublier, qu'on sait, par exemple, notamment à la SNCF, qu'il y a pas mal de couples de cheminots, et donc de salaires en moins, ça commence à faire beaucoup. Il y a le sujet politique aussi. Rallier la CFDT, c'est s'assurer d'avoir les députés de la majorité et de ne pas avoir l'effet frondeur qu'on a pu avoir lors du quinquennat précédent. Et ça plonge de facto le PS côté CGT. Et enfin, il y a un sujet d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a quand même le côté, le gouvernement fait un effort. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il réussit sémantiquement à imposer ses mots. On parle non pas de reculade, mais de compromis. On ne parle pas de reculade, on parle effectivement d'accord avec... Effectivement, ce sont des mots non seulement choisis, mais qu'ils ont réussi à imposer dans le débat médiatique. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis enfin, on n'a pas l'impression d'avoir un front uni de syndicats contre un gouvernement qui serait seul aux manettes. Cela dit, comme ça recule un petit peu aussi à droite, puisqu'on a l'impression que le gouvernement lâche, on peut supposer que dans les prochains jours, en réalité, les sondages d'opinion ne bouge pas vraiment.
Mais mot choisi, Jeannick Halimi, mais une grève qui se poursuit malgré tout. Hein.
Alors mot choisi effectivement par le gouvernement, hein, mais qui sont totalement pour le coup rejetés, par exemple par la CGT qui parle d'immobilisme et que plus ça change, moins ça change, puisque ce fameux âge pivot est reporté, enfin est abandonné pour un temps et qu'il y a des lettres de cadrage, si je puis dire, des termes de cadrage dans la lettre d'Édouard Philippe qui dit selon la CGT que ça ne change pas. Et en revanche, pour la droite, c'est plutôt qui défend l'équilibre financier. C'est plutôt un recul. Hein. Donc attention, oui, je suis d'accord avec vous, Mayada. Choix de mots, bien évidemment, c'est le moins qu'il puisse faire de la part du gouvernement, mais qui n'est pas un choix de mots qui n'est pas du tout épousé, adopté par aussi bien les syndicats donc de gauche que l'opposition.
Le contraire serait étonnant.
Mais Gilles Bornstein, est-ce que c'est le début du commencement de la fin du mouvement de grève? Est-ce qu'il y a une forme d'essoufflement sur lequel parierait le gouvernement?
C'est sûr que jusqu'à présent, le test était d'arriver ou non à fractionner le front syndical. Bon, c'est réussi depuis samedi ou dimanche, je ne sais plus de quand date la lettre. Samedi, désormais, les deux tests, c'est effectivement le taux de grévistes et est-ce que l'opinion va basculer ou pas. J'ai le sentiment que le taux de grévistes va quand même un petit peu diminuer. Et alors sur l'opinion, à l'inverse de Mayada, j'entendais des sondeurs dire aujourd'hui leur terrain, comme ils disent, n'était pas encore fait. Mais eux, ils avaient l'impression que ce samedi pouvait peut-être marquer un mouvement dans l'opinion et un tournant dans l'opinion. Il faut dire que c'est vrai qu'Édouard Philippe a pas trop mal réussi son coup, parce que depuis 6 mois ou 1 an, quand même, le gouvernement a fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire sur cette réforme des retraites. Ils avaient assez mal commencé, et là, c'était bloqué, il a fait un bouger, c'est quand même à lui qui est attribué le déblocage de la situation, il a fracturé le front syndical, ça correspond pas mal à l'acte 2 du quinquennat, c'est-à-dire de reparler avec les partenaires sociaux, de laisser du temps enfin aux sortes de macronisme des origines. Mmh. Alors c'est sûr qu'avec cette compromis, reculade, vous appelez ça comme vous voulez, il y a un risque avec les électeurs de droite dont on sait que le président de la République veut les arrimer à lui, oui. Que ça soit pas considéré comme... trop donner la main, trop tendre la main au syndicat. Mais je dois dire que Philippe Martinez et Yves Verrier, en expliquant à ce point que cette réforme était une catastrophe absolue pour les populations, rendent service au gouvernement en disant, bah, c'est comme, enfin, voilà, un gouvernement qui, à ce point, met la CGT dans la rue pour un électeur de droite ne peut pas être totalement mauvais.
Gavé Couture, vous avez la sensation vous-même que, au fond, quelque chose est en train de bouger, parce que, au fond, les revendications de la CGT, de Sud, et de FO restent les mêmes, retrait pur et simple de cette réforme des retraites.
Moi, j'avais eu la possibilité, au tout début des grèves, je ne sais pas si vous en souvenez, Jean-François, d'annoncer que, de toute manière, l'âge pivot serait retiré et qu'en bout de piste, ce serait le seul moyen de sortir de ce conflit. Ce qui me paraît aujourd'hui un peu dangereux pour la stratégie d'Édouard Philippe, c'est, dans le fond, sur une blessure qui s'est un peu... élargi, qui s'est mise à saigner de manière de plus en plus abondante, d'avoir gardé la même taille de sparadrap. Et du coup, je pense qu'il y a un petit danger tout de même, qui est que, est-ce que ça n'est pas un poil trop tard? Est-ce que ça n'est pas un poil trop tard d'arriver maintenant avec simplement l'âge pivot dont on dit qu'il est retiré, mais pas complètement, parce que
il est suspendu,
parce que si vous vous mettez pas d'accord, on va le réintroduire. Premier point. Second point. Il y a aussi la difficulté pour les syndicats à faire appliquer une... Je parle des syndicats réformés, je ne parle pas évidemment ni de la CGT ni de Sud. Mais pour les syndicats dits réformistes, la CFDT et l'UNSA, il va falloir maintenant
convaincre la base
qu'ils se débrouillent pour que la CFDT et l'UNSA, RATP et SNCF acceptent ce compromis, cette reculade. Je pense qu'il y a tout de même là un petit danger lié au fait qu'ils sont allés... Ça a duré trop longtemps. Et je pense que la blessure a quand même, s'est vraiment infectée de manière un peu plus dramatique, ou en tout cas un peu plus pathogène qu'elle ne l'était au départ.
20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Ce sera demain le 41e jour de grève sur les rails, avec encore de fortes perturbations sur le réseau du métro parisien, mais beaucoup plus de trains à la SNCF. La direction promet 8 TGV sur 10, 3 TER sur 4. Mobilisation contre la réforme des retraites, avec également des actions des avocats. Le procès de Bernard Prena a dû être repoussé à demain matin à Lyon. Pas de croche-pied à l'éthique, formule signée Christophe Castaner au moment de ses vœux aux forces de police tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur évoque cette vidéo d'un croche-patte fait à une manifestante lyonnaise. La police des polices a été saisie pour 3 autres signalements dans les manifestations parisiennes de jeudi dernier. Un djihadiste français a purgé sa peine, un homme de 33 ans, ressorti libre ce lundi après 7 années d'emprisonnement. C'est la première libération en France d'un djihadiste de retour de Syrie. Il restera sous surveillance judiciaire pendant près d'un an encore. La tempête est baptisée Brendan. Elle vaut une vigilance orange pour 3 départements de l'Ouest. Le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Météo France évoque des risques de fortes vagues et de submersion du littoral. Brendan qui frappera les côtes bretonnes demain matin. Et puis c'est Angèle qui mène la danse cette année aux Victoires de la Musique. La chanteuse déjà en tête des ventes en 2019. Elle est nommée 3 fois, notamment dans la catégorie interprète féminine, où elle se retrouve face à Clara Luciani et Catherine Ringer. Chez les messieurs, ça se jouera entre l'homme pâle, Philippe Catherine et Alain Souchon.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Vous évoquez à l'instant les syndicats réformistes. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a parlé de victoire sur RTL ce matin.
L'article 7 de la lettre que le Premier ministre a adressée à toutes les organisations syndicales et patronales dit que dans le projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres, l'âge pivot, qui devait rentrer en vigueur dès 2022, va être retiré. Et quand je parle de victoire, je dis que pour les travailleurs, de tout un tas de secteurs qui à partir de 2022 vont avoir à 62 ans la possibilité de partir en retraite. C'est une vraie avancée.
Yannick Halimi, victoire, dit Laurent Berger, mais le problème, c'est que les partenaires sociaux vont devoir plancher, là,
Exactement.
Pour,
mais
trouver l'argent, je vais la faire simple.
Exactement. Mais bon, reconnaissons quand même que Laurent Berger, quand même, est habilité à dire qu'il a une victoire dans la mesure où ça a été depuis le début et qu'il est à l'origine de cette, de l'esprit de cette réforme, encore une fois, bien avant le quinquennat de monsieur Macron, il peut dire que c'est une victoire parce que c'est une réforme qu'il portait. En revanche, et qu'il a inspiré et qui est un peu celle de la CFDT. Et qu'elle est toujours là. En tout cas, dans son esprit, le gouvernement, pour le coup, n'a pas reculé. En revanche, là où vous avez raison, Jean-François, c'est que c'est une victoire pour le moment. Pour le moment, à la Pyrrhus, c'est-à-dire que l'essai doit être transformé par les partenaires sociaux, syndicats et patronats, et notamment des syndicats réformistes qui veulent faire en sorte que la réforme réussisse. Et vous avez raison, c'est ce que vous dites, Jean-François. Comment, pour éviter justement qu'il y ait un âge pivot en tant que tel, que entre guillemets, dont menace si Édouard Philippe.
Il y en aura un de toute façon.
Oui, mais en 2037, c'est beaucoup plus tard. Premièrement, deuxièmement, donc c'est pas en 2022, et que aux syndicats réformistes, mais pas que, aussi au patronat, puis on verra peut-être aussi si Force ouvrière ou si la CGT quand même accepte de négocier, trouver des moyens financiers pour faire en sorte que cette réforme soit mise en œuvre sans qu'il y ait cet âge pivot. Dès 2022. Alors, c'est compliqué, subtil et extrêmement sophistiqué de la part des syndicats réformateurs. C'est totalement schizophrénique de la part des syndicats radicaux, Force ouvrière et notamment CGT, s'ils acceptent de participer à cette convention de financement.
Alors Gilles Bornstein, je ne sais pas où Pyrrhus est syndiqué aujourd'hui, mais si d'aventure les partenaires sociaux ne trouvent pas la bonne mécanique des choses, parce qu'ils vont devoir se mettre à plancher là, c'est leur responsabilité. C'est du moins ce que dit le gouvernement. Est-ce à dire que bien l'âge pivot sera de retour?
Alors, j'étais il y a un instant sur un plateau avec un syndicaliste de la CFDT qui disait on a obtenu définitivement la mort de l'âge pivot.
En fait, c'est enterré. Vous pensez que c'est enterré?
Lui dit, en fait, la question sur si ça ne se passe mal, c'est quoi, quand, comment? Quoi? Est-ce que, alors on sait que le Premier ministre prendra ses responsabilités, est-ce que ce sera le retour de l'âge pivot? Pas forcément. Il peut prendre un certain nombre des mesures qui auront été discutées, même s'il n'arrive pas à se mettre d'accord globalement, et ne pas forcément revenir à l'âge pivot. Mon interlocuteur disait il ne pourra pas y revenir. Comment? On parle d'ordonnance. Là, je dois dire que ça serait quand même assez culotté, s'il y a échec, de réinstaurer une sorte d'âge pivot et d'en plus... Et en plus de le faire par ordonnance, ce qui est dans le projet de loi, ce qui est dans le texte, puisque dans le texte, il y a marqué que par ordonnance, soit le gouvernement transcrira ce que les partenaires sociaux auront discuté, soit il remettra une mesure à sa guise. Et quand en
revanche... pardonnez-moi, l'ordonnance n'est pas ipso facto si la conférence de financement trouve des pistes. Il y aurait dans ce cas-là une deuxième lecture au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Donc l'ordonnance ne sera pas déclenchée si la conférence de financement apporte des solutions.
Il peut le remettre dans le texte par ordonnance. Mais s'ils se mettent d'accord, c'est pas très important.
Là où le syndicaliste de la CFDT a raison, c'est que dans l'opinion, l'âge pivot est mort. C'est impossible de le remettre sur le devant de la scène. On sait à quel point l'opinion y est opposée, alors même que cette même opinion est favorable, en fait, au régime universel, ou tout du moins à la disparition des régimes spéciaux.
Je vous propose d'écouter ce que disait, vous parliez de la mécanique parlementaire qui se profile à l'horizon à propos des retraites, ce qu'en a dit Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, aujourd'hui à Vitry-sur-Seine.
On va nous demander de voter à l'Assemblée nationale, pour la première fois dans notre histoire, une loi avec des trous. Vous vous imaginez ? On va nous demander de dire oui ou non à un texte dont on ne sait pas ce qu'il contient réellement à la fin et qui va être rénové au mois de mai. Où est la logique parlementaire? Où est la démocratie dans un cadre comme celui-là? C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie.
Voilà, donc un attentat, un coup de force, dit Jean-Luc Mélenchon, qui rappelle que effectivement le vote qui se profile, c'est une loi avec des trous. Ce ne sera pas la première fois dans l'histoire de la Ve République, mais ça concerne quand même les retraites, Xavier Couture.
Il surfe sur une réalité qui, moi, me sidère. Comment ce gouvernement, qui était parti avec une réforme structurelle, relativement facile à faire adopter, relativement, il y aura eu des oppositions, mais il pouvait la faire adopter, se sont-ils empêtrés dans cette réforme paramétrique de l'âge pivot avant d'avoir fait voter la réforme structurelle. Il était tout à fait possible de le faire en deux temps. Le responsable, c'est probablement le Premier ministre qui était attaché à cette âge pivot absolument comme Alain Juppé l'était en son temps. C'était un digne héritier d'Alain Juppé. Il a repris effectivement cette volonté de réintroduire un équilibre financier dans les réformes structurelles. Résultat des courses, qui est victime de cette histoire ? La réforme structurelle, elle a déjà été démantibulée sur un certain nombre de points. On a déjà réintroduit dans la volonté d'universalité de la réforme, on a déjà réintroduit des régimes spéciaux un peu partout. On voit bien que aujourd'hui, l'âge pivot, il est mort et enterré. Je suis d'accord avec le syndicat de la CFDT, il ne pourra pas revenir.
Impossible.
Et il ne reviendra pas.
Je comprends tout. Là où je suis d'accord avec Xavier Couture, c'est que cette réforme, depuis le début, notamment depuis le mois de décembre, et le discours d'Édouard Philippe, est complètement mal expliqué. On se rend compte qu'elle est mal calculée, mal programmée. Et qu'il y a un tas d'erreurs. En revanche, là où peut-être on peut ne pas être d'accord avec Xavier Couture, c'est de dire que dans la mesure où il y a une réforme paramétrique, c'est-à-dire des équilibres financiers avant que la réforme systémique soit menée, casse la menace systémique. On peut dire aussi que s'il n'y avait pas eu, et c'est ce que dit le gouvernement, et ce que finalement dit la CFDT et les syndicats réformateurs, hors âge pivot, hein, je parle de l'équilibre financier. S'il n'y avait pas eu une orientation vers l'équilibre financier, il n'aurait pas pu avoir d'application et non, de crédibilité, de pérennité dans,
oui,
le système,
conférence était
dans
tout
la
à
mise
fait
en
possible.
Place du système universel.
Rappelons-nous
c'est quand même
un discours
peu plus compliqué.
Rappelons-nous quand même le discours du président de la République et ce qu'il annonce pendant la campagne présidentielle. Il dit explicitement qu'il n'y a plus de problème financier et que donc c'est le moment de faire une réforme systémique, une réforme structurelle.
Il dit
et c'est Édouard Philippe qui réintroduit...
Alors peut-être pendant la campagne, mais lorsque Emmanuel Macron, je suis d'accord avec vous, il y a 2 ans et demi ou 3 ans pendant la campagne, mais depuis, Emmanuel Macron a bien dit que cette réforme systémique devait avancer sur des équilibres financiers, qu'il fallait trouver cet équilibre financier. En revanche, que sa préférence n'allait pas à l'âge pivot. Mais l'équilibre financier préalable à la mise en place du système universel, Emmanuel Macron en avait parlé avec Édouard Philippe, et vous n'imaginez pas, dans le système tel qu'il est et tel qu'on connaît Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron, sur une réforme telle, aurait laissé partir tout seul Édouard Philippe au mois de décembre.
Absolument. Donc, vous avez raison, mais c'est la première fois qu'on observe une dissension entre le président de la République et le Premier ministre.
On dit deux choses différentes. On est d'accord sur le principe d'une réforme structurelle accompagnée par un équilibre financier à terme. Le terme étant d'ailleurs à définir et le mode pour y arriver étant à définir. L'âge pivot était un chiffon rouge. C'est pas tout à fait la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'Emmanuel Macron eût voulu un équilibre financier à terme.
20h21 sur France Info. Pardon pour le retard. Le rappel avec vous, Augustin Arrivé.
5 chefs d'État africains dînent ce soir à Pau autour d'Emmanuel Macron, sommet du G5 Sahel pour discuter de la lutte contre le djihadisme. Une centaine de manifestants réunis devant le château qui accueille les discussions, rien à voir. Il s'agit d'une action contre la réforme des retraites. Autre conséquence de cette mobilisation nationale, le procès de Bernard Prénat à Lyon devrait finalement s'ouvrir demain matin. Audience reportée en raison de la grève des avocats. Le trafic restera très perturbé dans le métro parisien avec toujours 2 lignes sur 16 qui fonctionnent normalement. Mais la SNCF table sur 8 TGV sur 10 en circulation demain et 3 TER sur 4. Il a succombé à ses blessures cet après-midi. Un policier de 45 ans est mort après avoir été fauché le week-end dernier sur une aire d'autoroute. Il participait à une opération de surveillance d'un groupe de voleurs. C'était près de Lyon. Le conducteur du fourgon qu'il a percuté est toujours en fuite. Un de ses complices a été arrêté. Attention sur la côte bretonne avec des risques de fortes vagues à partir de cette nuit. Météo France place déjà en vigilance orange le littoral du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Atlantique. La tempête Brendan qui touchera plus faiblement les Côtes d'Armor et la Vendée. Et puis la France devra bien verser à la commune de Chambord, l'ensemble de la taxe foncière liée au domaine qui entoure le château. Confirmation aujourd'hui du Conseil d'État qui a rejeté un pourvoi déposé par le ministère de l'Action publique. 78 500 euros, ça représente un quart du budget annuel de la municipalité.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je voudrais qu'on dise deux mots sur ce procès du père Prénard reporté, mais tout de même, Gilles Bornstein, sur ces éventuelles divergences entre l'Élysée et Matignon, les questions de Laurent Delahousse ont été largement, on va dire, évacuées, esquivées par le Premier ministre hier soir, sur les divergences, et d'ailleurs aussi sur son sort personnel.
Oui, moi je pense que je suis d'accord avec Yannick pour dire qu'il n'y a pas vraiment de divergence politique, à mon avis, entre le président de la République et le Premier ministre. Ils étaient tous les deux d'accord pour des mesures d'équilibre, mais à mon avis, pas tout à fait pour les mêmes raisons. L'un, le Premier ministre, parce que c'est un juppéiste, c'est un vrai orthodoxe financier, et il pense que sa responsabilité de Premier ministre est de mettre sur les rails une réforme qui commence à l'équilibre. L'autre, le président de la République, on a vu au moment des Gilets jaunes, quand il a lâché 17 milliards en un soir, que c'était quand même pas un obsédé de la rigueur budgétaire. Le président de la République, à mon sens, je ne suis pas certain d'avoir raison, mais à mon sens, pense que son électorat est devenu un électorat de centre-droite, que c'est un électorat qui est très sensible aux problèmes d'équilibre budgétaire, qui ne veut pas laisser dériver la dette et que, pour des raisons politiques, il doit montrer, lui, qu'il est sensible à l'équilibre budgétaire. Mais à mon avis, lui le fait plus pour des raisons politiques et le Premier ministre le fait plus pour des raisons économiques. Deuxième point sur ce qu'a dit Xavier sur le fait qu'on pouvait faire les choses en deux temps. Là aussi, je pense que si le gouvernement l'a pas fait en deux temps, c'est uniquement pour des raisons politiques. Parce que quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème d'équilibre financier, ils n'ont pas voulu faire d'abord la réforme structurelle gentillette pour être obligés de prendre des mesures de financement hard, difficiles, dans un an ou dans un an et demi, juste avant les élections. Exactement. Donc je pense qu'avant, ils étaient plutôt d'accord avec vous, mais que des impératifs politiques leur ont fait dire « on le fait tout de suite, parce qu'on ne veut pas avoir à serrer la ceinture en 2021, quelques mois avant les élections. »
Le résultat, c'est probablement d'avoir un peu perdu sur les deux fronts.
Ah ben ça, je te dis pas le contraire.
Encore un mot avec vous, Jeannick Adimi. Juste deux points sur les bisbilles, enfin la feuille de cigarette qui serait plus
là. On n'arrive jamais à savoir, réellement. Hein.
Ouais, alors, ce qui semble vrai, en tout cas, et établi, c'est qu'il y ait quand même eu des discussions et des tiraillements entre les membres des cabinets, entre le directeur de cabinet de monsieur Édouard Philippe, monsieur Ibadou Duba qui est effectivement extrêmement, on va dire, rigoriste ou à cheval sur l'équilibre, et puis un conseiller qui est plus social avec qui finalement se sont passées les discussions, monsieur Grandjean de l'Élysée.
Et de le voir.
Pardon ?
Et de le voir au début. Bon,
et de le voir, mais je parlais de l'exécutif, au sein de l'exécutif, enfin entre le Premier ministre et l'Élysée.
Philippe Grandjean,
autre
qui
point,
vient de la CFDT.
Pardonnez-moi, parce que j'ai essayé de comprendre, effectivement, pourquoi ce chiffon jaune agité par le Premier ministre, en l'occurrence.
Rouge.
Pourquoi
hein,
on s'y perd.
La ligne
le chiffon rouge, la ligne jaune, agité au mois le 10 ou le 11 décembre par Édouard Philippe, je pense avec Emmanuel Macron, de toute façon en accord avec lui, mais peu importe. Pourquoi je ne le comprenais pas. Alors, moi, ce que je me suis laissé dire très récemment, et auquel je ne pensais pas, il faudrait lui donner la parole, ça vient du fait de Laurent Berger. Alors après, je parle sous contrôle. Laurent Berger ayant refusé, et de façon de plus en plus explicite au fur et à mesure que les négociations avançaient au sein de la commission, enfin de la commission Delevoye, avait strictement refusé de faire ce que vous preniez, monsieur Couture, c'est-à-dire, enfin, plutôt, de faire ce que voulait le gouvernement, c'est-à-dire un équilibre des retraites avant la réforme systémique, il voulait déconnecter les deux. Et il est resté droit dans ses bottes, et même il a accentué cette position, c'est-à-dire, on fait la réforme systémique, et après, on parle de déséquilibre financier, de cette fameuse réforme paramétrique, ce dont ne voulait pas l'ensemble de l'exécutif, qui finalement, voyant monsieur Laurent Berger extrêmement, pour le coup, droit dans ses bottes, jusqu'à la dernière minute, je parle de début décembre, a forcé, dit-on, l'exécutif, en l'occurrence, par l'intermédiaire d'Édouard Philippe, à sortir ce qu'on appelle le chiffon rouge.
Alors, voilà. Mais je ne suis pas certain, d'ailleurs, que Jean-Paul Courtois ne lui ait pas laissé quand même l'espoir que cette séquence... D'abord la réforme systémique, on s'occupera des problèmes de l'équilibre financier dans un second temps. Cette promesse ne lui a pas été faite.
En tous les cas, dégâts collatéraux de cette mobilisation contre la réforme des retraites, notamment la grève des avocats, on n'a plus le temps d'en parler, l'heure tourne. Le procès du père Prénalion est suspendu jusqu'à demain, avec d'ailleurs l'aval de Bernard Prénat lui-même qui a souhaité que le procès ait lieu, donc le plus vite possible. Nous n'avons pas le temps d'évoquer, c'est l'heure de la pause, il est 20h28 sur France Info. Rappel de l'info, de la météo, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés. Nous allons parler des élections municipales et du Mexit en Grande-Bretagne.
Sergueï Babayan, virtuose du piano d'origine arménienne, en récital à l'Auditorium de Radio France le mardi 28 janvier à 20h. Il interprète deux grandes pages de Franz Liszt, la vaste deuxième ballade et les funérailles composées à la mémoire de Chopin, et propose un ensemble d'extraits des suites de Rameau qui nous transporteront vers d'autres espaces. Entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations, maisondelaradio.fr.
Politique,
enquête,
sport,
invité,
culture,
interview,
économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair. France Info à Ajaccio, 105.6.
Et partout dans le monde, sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, plus de 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Les prévisions de Météo France avec vous, Sébastien Léas.
Une perturbation assez active s'infiltre sur le pays par l'ouest dès ce soir, apportant des pluies localement soutenues et de fortes rafales de vent sur la Bretagne et la basse Normandie. Ces conditions agitées génèrent également de fortes vagues et comme les coefficients de marée sont élevés, des risques de submersion sont à craindre sur le littoral atlantique. Ce temps gris, pluvieux et venté concernera un large quart nord-ouest demain, des côtes de la Manche à la Champagne-Ardenne jusqu'au centre-Val de Loire et au Poitou. C'est en Bretagne et en Normandie que les pluies seront le plus régulières et les rafales les plus violentes sont attendues sur les pointes du Finistère et le Boulonnais. Du sud-ouest aux Alpes, l'impression sera ensoleillée. En revanche, entre le Languedoc et la Provence, jusqu'en moyenne vallée du Rhône, les nuages apportés par le vent venu de Méditerranée seront de plus en plus compacts. Les températures restent douces pour la saison avec des maximales comprises entre 9 et 15 degrés.
France Info, il est 20h30. L'info avec vous. Bonsoir Claire Briguet-Lamarre.
Bonsoir à tous. C'était au mois d'octobre. 17 collégiens pris de malaise pendant un cross scolaire à Morbier dans le Jura. Plan Orsec déclenché, plusieurs ados hospitalisés. Plus de 3 mois après, eh bien, l'affaire est finalement classée sans suite. Marie-Coralie Fournier.
L'enquête conclut à un syndrome psychogène collectif, autrement dit une sorte de malaise à la chaîne, les vomissements ou évanouissements des uns entraînant ceux des autres. Aucun élément toxique n'est apparu dans les analyses des boissons servies pendant le ravitaillement et qui ont été avalées par toutes les victimes. Pas d'intoxication alimentaire, pas d'intoxication non plus liée à un gaz ou à l'air ambiant. Le médecin légiste a aussi examiné les dossiers médicaux de tous les collégiens concernés et ils ont tous été entendus par les enquêteurs. 17 adolescents dont 5 hospitalisés, 2 dans un état d'urgence absolu. Rien ne permet aujourd'hui d'établir une quelconque intoxication. Il n'y a donc aucune infraction aux yeux de la justice. C'est pour ça que le procureur de la République de Lons-le-Saunier a décidé de classer le dossier.
Le syndicat UNSA Police appelle à des rassemblements demain devant tous les commissariats. En mémoire de Franck, ce policier de Bron, mort aujourd'hui des suites de ses blessures. Dans la nuit de vendredi à samedi, sur une aire d'autoroute de Bron près de Lyon, il a été percuté volontairement par un fourgon. Des policiers à qui Christophe Castaner s'est adressé tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur prévient. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, il appelle les forces de l'ordre à l'exemplarité et à un usage juste et proportionné de la force. Flavien Moreau est sorti de prison après 7 ans de détention dans l'Orne. Il est le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie. Les négociations sur la réforme des retraites continuent après le compromis proposé par Édouard Philippe. La ministre de la Justice a reçu les avocats dont le régime autonome doit être fondu dans le régime général. Leur cotisation pourrait doubler, disent-ils, dans les transports, trafic toujours perturbé, avec un léger mieux demain, 8 TGV sur 10, la moitié des intercités, 70% des transiliens, 75% des RER. Les présidents du G5 Sahel souhaitent la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel et la poursuite de l'appui crucial des États-Unis. Emmanuel Macron réunit à Pau les présidents de 5 pays de cette région d'Afrique pour renforcer la légitimité des militaires français déployés sur place et mobiliser les alliés européens. 3 départements en vigilance orange pour vagues submersion, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Et puis, ils ont la bénédiction de leur grand-mère pour voler de leurs propres ailes. Au moins de façon transitoire, la reine Elisabeth laisse Harry et Meghan partir vivre en Amérique. La souveraine de 93 ans soutient entièrement le choix du couple princier. Enfin, Les Misérables, film français du réalisateur Ladjili, est nommé aux Oscars du meilleur film étranger. Il est 20h33 sur France Info. On retrouve Jean-François Aquili pour les informer.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, du service politique en question, avec Maya Daboulos, la directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Xavier Couture, consultant audiovisuel, et avec Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info. Alors les retraites dont nous avons abondamment parlé pendant la première partie de cette émission vont-elles peser dans la campagne des municipales? Anne Hidalgo tient son premier meeting ce soir sur une péniche parisienne. Le socle, c'est l'écologie, avait déclaré ce matin la candidate en conférence de presse dans son QG tout près de l'hôtel de ville de Paris.
Il faut être vraiment très engagé sur la question de l'écologie et de la solidarité. Les deux vont ensemble, c'est pas l'un contre l'autre. Et je veux, j'espère, convaincre les Parisiens. C'est à eux que je m'adresse, voilà.
Maya Daboulos, ça y est, l'écologie, c'est tous azimuts maintenant. Hein, la candidate parle d'un Paris 100% vélo, c'est tout le monde s'y met.
Tout le monde s'y met. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même visuellement, toutes ces affiches de campagne, etc., le vert est la couleur prédominante. Elle ne se présente d'ailleurs pas sous les couleurs du Parti Socialiste, mais Paris en commun, avec une connotation verte extrêmement forte. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'elle assume totalement ce qui lui avait été reproché, d'ailleurs, jusqu'à il y a quelques temps. Il y a un énorme retournement d'opinion qui s'est fait. Et d'ailleurs, je pense, à titre personnel, que la grève et les blocages lui ont servi à Paris, finalement, puisqu'il y a eu un report absolument énorme sur les autres moyens de déplacement.
Les autres mobilités, oui.
Sur les nouvelles mobilités.
Dont la bicyclette.
Dont
oui.
Le vélo. Mmh. Et elle prône effectivement un Paris 100% vélo. Mmh. Cette nationalisation de la grève et des municipales ne vaut, à mon avis, qu'à Paris, puisque c'est vraiment à Paris qu'il y a eu plus de
difficultés.
Et donc c'est vraiment un cas particulier, mais je pense qu'en l'occurrence elle en bénéficie.
Ah, Gilles Bernstein.
Et manque de chance, oui. Son adversaire est Benjamin Griveaux, qui a été porte-parole du gouvernement, et s'il y a bien quelqu'un à qui l'opinion pourrait reprocher un certain nombre de choses du gouvernement, c'est lui, même s'il n'en fait plus partie. Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'il y aura une incidence de ces mouvements de grève sur les municipales? Je ne pense pas. Je suis tout à fait d'accord avec Mayada. Il peut y en avoir une à Paris, parce que effectivement ça profite à Anne Hidalgo, et ça risque quand même pas mal de nuire à Benjamin Griveaux, qui est tellement étiqueté macroniste qu'un certain nombre de gens pourraient lui reprocher l'incapacité du gouvernement à régler ce problème, et pourraient reprocher à Benjamin Griveaux leur galère pour aller bosser tous les jours.
Jeannick Halimi, le Parisien, a consacré ce matin un dossier de 10 pages sur le lancement de ces municipales, et pas qu'à Paris, ça se passe dans toute la France. Vous avez la sensation vous-même que cet enjeu écologique va au fond irriguer tous azimuts la campagne dans les métropoles françaises?
Elle irrigue tous azimuts. Attention, elle irrigue quand même beaucoup plus à gauche et au sein de la Macronie, même si on critique le peu d'appétence verte de la part d'Emmanuel Macron, qui n'a de cesse de vouloir contredire ceux qui le critiquent là-dessus. À droite, beaucoup moins. Le Rassemblement National et les LR, même si certains maires, bien sûr, LR ou divers droites ou apparentés, revendiquent plus ou moins certains axes de leur politique, ou en tout cas certaines dispositions de leur politique, voire de leur programme sur des éléments verts. L'écologie est centrale pour la gauche, La République En Marche comprise. Il est central dans la programmation, si je puis dire, dans les programmes, tant en termes de bilan pour les maires de gauche sortants qu'en termes de programme, encore une fois. Mais il est aussi stratégiquement extrêmement important. Quand je dis il, pardonnez-moi, c'est l'écologie, parce que c'est un bras de fer dans énormément de communes, surtout au premier de ville et de métropole, enfin de ville, ouais, au premier tour, entre les écologistes stricto sensu, Europe Écologie Les Verts, et les socialistes, oui, pour qui c'est, encore une fois, alors, à qui se l'appropriera, et c'est une bagarre pour la première place au premier tour des municipales.
D'abord, je pense qu'il y a vraiment une force verte pour ces élections municipales. C'est le seul vote de parti revendiqué. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a des pour les maires sortants, contre les maires sortants, pour de les politiques municipales. Le seul vote vert national revendiqué, c'est le seul vote national revendiqué, c'est pour les Verts. Ils font en gros partout 10 points de plus que Yannick Jadot aux européennes. Il y a des gens totalement inconnus qui sont crédités de 20-22%.
Vous voulez dire qu'il y a une poussée verte, une poussée verte dans ce pays la seule qui se
vague,
dessine.
C'est la seule vague politique qui se dessine pour les municipales. Pourquoi ? Parce que on voit bien que la municipalité est l'échelon pertinent pour l'écologie. Autant on a peut-être encore un peu peur de leur donner les clés du camion à l'échelon national, autant pour faire des pistes cyclables,
du
des
local
cantines bio,
et du concret, oui.
Bah, des pistes
plus.
Cyclables, Gilles, des cantines
je
bio.
Des
bus électriques, on se dit, c'est pas très risqué, et ça, ils savent faire, et c'est le bon échelon.
Xavier Couture.
Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Gilles. Je pense que ça va être un moteur essentiel de cette élection municipale. J'ajoute d'ailleurs que en ce qui concerne Anne Hidalgo, je réfute l'idée qu'on soit pour ou qu'on soit contre, que ce soit chez elle une position opportuniste. Elle est fondamentalement, plus qu'investie. Elle est habitée par cet enjeu écologique. Donc après, elle l'a fait plus ou moins bien avec la municipalité, mais en tout cas, elle est habitée par cela et elle n'est pas la seule. Je pense que ça va être un moteur mais gigantesque. Ce qui se passe en Australie, enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du constat. C'est simplement le constat. Les populations qui ont moins de 40 ans aujourd'hui, mais elles ne parlent que de ça. Il y a un constat qui est que l'écologie qui est victime, enfin, notre planète qui est victime du désastre du réchauffement climatique et de ses conséquences, eh bien, l'ensemble de ces populations qui font le constat que la planète va mal vont aller de manière naturelle. Et là, je rejoins ce que
tu dis. À un échelon, c'est utile.
C'est opérationnel, un échelon
Préhensible
par l'électeur.
Avec quand même Jean-Luc Halimi, des refondations d'axes très au fond à gauche, comme on a vu dans l'ancien temps. On voit à Marseille qu'il y a des tentatives également d'axes écologie.
C'est plus compliqué. Pardonnez-moi. À Marseille, c'est beaucoup plus compliqué.
On va pas faire Marseille en 5 minutes.
Il y a une tentative de mise en place d'une liste commune à gauche qui s'appelle le Printemps Marseillais, sauf que la liste écologique véritablement n'y est pas, et que Samia Ghali, par exemple, et qu'il y a des dissidences socialistes. Donc c'est une liste commune extrêmement fallacieuse. Juste un point. Un, oui, bien sûr, l'écologie est devenue un moteur essentiel. Mais comme vous le disiez, Xavier Couture, ça ne contredit pas ce que je dis, vous parliez pour Paris d'Anne Hidalgo comme étant presque intrinsèque, en tout cas naturelle, réfléchie et volontaire de sa part. Comme par hasard, vous ne parlez pas de David Béliard, qui est le candidat vert, qui était...
Qu'il y a
à travers l'écologie une lutte entre à gauche, entre le Parti socialiste et le Parti écologiste.
Je pense que nos sous-politiques nos sous-politiques n'intéresseront pas les électeurs qui retrouveront leurs petits sur la véritable écologie dans chacune des municipalités.
20h40 sur France Info, je propose de marquer une toute petite pause pour le rappel de l'info. On se retrouve pour parler encore de ces municipales, mais d'abord ce rappel avec vous, Augustin Arrivé.
Un peu plus de trains à la SNCF, mais un réseau RATP toujours très perturbé. Voilà ce qu'il faut prévoir sur les rails demain. 8 TGV sur 10, 3 TER sur 4, seulement 2 lignes de métro en service normal. 41e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Éducation nationale recevait aujourd'hui les syndicats enseignants. Inquiétude spécifique pour cette profession, Jean-Michel Blanquer confirme le budget qui sera consacré à la revalorisation des salaires pour les professeurs touchés par cette réforme des retraites. Ça s'élèvera à 500 millions d'euros en 2021. Le ministre de l'Intérieur, lui, présentait ses vœux aux forces de l'ordre ce lundi. Christophe Castaner qui a exigé de l'exemplarité et de l'éthique. L'IGPN, la police des polices, a été saisie à 3 reprises pour de possibles violences policières dans la manifestation parisienne de jeudi dernier. Plus de 20 000 personnes évacuées des alentours du volcan philippin Taal. La lave a fait son apparition en plus d'un gigantesque panache de fumée. La bourse des Philippines est restée fermée aujourd'hui. Volcan qui pourrait exploser dans les prochains jours. La dernière éruption majeure sur place date des années 70. La Palme d'Or du dernier Festival de Cannes est maintenant en lice pour l'Oscar du meilleur film, mais aussi pour l'Oscar du meilleur film étranger. Il s'agit de Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho. Dans la même catégorie du film étranger, on retrouvera Les Misérables du français Ladj Ly. Un film français aussi parmi les longs métrages d'animation avec J'ai perdu mon corps, signé Jérémy Clapin.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés,
Jean-François Aquili.
Allez, encore quelques mots sur ces municipales. Il y a Philippe Turl, d'ailleurs, qui nous attend depuis France 24 pour nous parler de l'accord royal survenu outre-Manche. Mais tout de même, Emmanuel Macron, qui tenait aujourd'hui son G5 Sahel pour faire le point sur l'opération Barkhane bien, va rester à Pau, dans la belle ville de Pau, pour participer demain à une table ronde. Devinez sur quoi ? Eh bien, sur l'écologie, avec François Bayrou, qui lui présentera un nouveau bus à l'hydrogène. Tout le monde, décidément, on le disait à l'instant, ici même, est écolo. Écoutez, Isabelle Saporta, candidate auprès de Gaspard Ganzer à Paris, aux municipales parisiennes. Elle était l'invitée du 1850 France Info.
Le problème, c'est pas l'affichage. Regardez, Macron, il fait ça très bien. Il est plus vert que vert. Après, dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui
se passe.
Elle
n'est pas assez verte.
Mais écoutez, c'est pas le problème qu'elle n'est pas assez verte. Elle est socialiste. D'abord, elle n'est pas écolo. Elle est socialiste. Et effectivement, là où vous avez raison, elle a toujours été très, très bien entourée par des écolos qui, effectivement, ont porté haut et fort. Mais... Bah, là, vous parliez des vélos. Les pistes cyclables, c'est les écolos. C'est pas Anne Hidalgo.
Maya Daboulos, on parlait évidemment et éminemment de Anne Hidalgo et son entrée en campagne. L'écologie va être, effectivement, et on va le redire à l'instant, au cœur de cette campagne, notamment parisienne, mais pas que parisienne.
Oui, enfin, cela dit, à Paris, quand même, un point, c'est que Anne Hidalgo, elle a quand même intérêt à ce que on pourrait penser qu'elle aurait intérêt à ce que les Verts soient très forts au premier tour, pour un report par la suite. Cela dit, comme on en discutait à l'instant, ce qu'elle a intérêt à avoir, c'est quand même à être devant les Verts dans les arrondissements de gauche. Donc il y a quand même un vrai enjeu pour elle, et un risque là-dessus. Donc elle a quand même intérêt à ce que l'écologie et les écolos surtout ne soient pas trop forts au premier tour. Et donc, ce qui explique aussi en partie son positionnement, notamment dans sa sortie dans le Parisien et son entrée en campagne précisément beaucoup bien sur ces sujets-là.
Bien sûr. Anne Hidalgo, qui avait fait l'objet d'un bashing terrible il y a un an, enfin, où tout le monde critiquait tout ce qu'elle avait fait, on va pas repasser des livres, était assez beaucoup très critiques étaient sortis contre
elle. Sur ces sujets-là,
sans voiture. Absolument. Là, on voit qu'elle est en tête des sondages. Mais attention, elle est en tête avec 18-20%. Elle profite de quoi? Énormément de l'éclatement des oppositions. La République en marche entre Villani et Griveaux. La droite, il y a Dati, mais qui va proposer vraisemblablement des candidats contre des candidats de droite macro-compatibles. Ouais. Enfin bon, c'est tout. L'opposant, quand même, au premier tour, on est bien d'accord, est évident, clairement identifié aujourd'hui, ce sont les Verts. Donc, encore une fois, au premier tour, je parle en termes politiques, je parle pas sur le fond. Voilà.
Le concurrent,
ce sont les frères Zemmour, au premier tour. Voilà. Et effectivement, Anne Hidalgo a David Béliard dans le collimateur.
Dites, elle est très haut dans les sondages. Vous avez raison.
Non, j'ai dit qu'elle n'est pas si haut que ça.
Effectivement, parce qu'elle est bien plus bas que ce qu'elle était, en fait, à la même période la dernière fois. C'est-à-dire, elle est au moins 15 points de moins.
Exactement. Elle est très basse pour un maire sortant. Là où les maires sortants font des scores absolument incroyables dans les sondages, elle est plutôt basse pour un maire sortant.
Elle est en tête des sondages grâce à l'éclatement de ses comptes.
Il y a une partie des écolos qui vont être attirés d'une manière en autre par Villani. Il va y avoir aussi là une espèce de confusion entre les différentes attractions qui exercent tous ces candidats.
En tous les cas, je constate ce soir, c'était un test pour en ce qui me concerne, que le sujet vous passionne. Je parle de celui des municipales et il y a tant de villes à visiter dans toute la France. Allez, il est temps d'en venir au Mexit. Une royale réunion de famille s'est tenue aujourd'hui en Grande-Bretagne autour de la reine d'Angleterre, consacrée au désir d'indépendance du prince Harry et de Meghan. Cap sur la rédaction de France 24. Bonsoir à vous, Philippe Turl.
Et bonsoir bienvenue. Jean-François, bonsoir à tous.
Journaliste britannique et chroniqueur international sur France 24, vous êtes spécialiste, pardonnez-moi, corrigez-moi, de la couronne britannique, mais pas seulement, je vous rassure. Un accord a été conclu entre Elisabeth II et le couple, Harry et Meghan, portant sur une période de transition. Expliquez-nous ça.
Alors, je dirais un accord, c'est peut-être un peu tôt encore, parce qu'on est au début des négociations. Vous savez, depuis mercredi dernier, l'annonce choc qui était inattendu du départ anticipé souhaité de Harry et Meghan pendant 6 mois par an au Canada ou en Amérique du Nord a pris tout le monde de court, en premier la reine d'Angleterre. Donc aujourd'hui, la reine, le prince Charles, le prince William et Harry se sont réunis à Sandringham dans l'est de l'Angleterre, tous ensemble, avec Meghan et Harry par téléphone depuis le Canada, pour essayer de trouver un compromis, une solution à ce qui est décrit dans la presse britannique comme une vraie tremblement de terre de la famille royale. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de trouver, en attendant, une acceptation de la part de la famille royale, même si la reine exprime sa tristesse par le fait que Harry et Meghan ne veulent plus jouer un rôle entier pour la famille royale, mais accepte l'idée qu'ils prennent un peu leur retrait pendant une certaine période. Reste à savoir comment cette période va évoluer, par quels moyens ils vont vivre, est-ce qu'ils vont continuer à toucher l'argent du contribuable et l'argent du prince Charles qu'ils ont touché jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ne sont plus à 100% à Londres. Et est-ce qu'en plus de cela, ils garderont leur titre d'Altesse Royale si jamais ils partent vivre?
On va s'en tenir là.
Juste deux indices dans cette communiqué Philippe. De la reine qui était publié il y a à peu près 2 heures. Elle mentionne 13 fois dans une dizaine de lignes le mot famille, donc elle est très attachée. Et pendant ces 10 lignes, nous voyons que les noms Harry et Meghan, mais une fois ni la duchesse ni le duc de Sussex.
Merci en tous les cas, Philippe Turl. Quelques petits problèmes de liaison, malheureusement, avec la rédaction de France 24. Merci pour ces précisions concernant cet étonnant scénario, Xavier Couture, qui passionne les foules, et pas seulement en Grande-Bretagne.
Oui, parce que la famille d'Angleterre est traditionnellement une icône. Une galerie d'icônes qui peuple les magazines spécialisés, qui aiment ce genre de belles histoires. Moi, je trouve qu'il est difficile de profiter d'un système et de le remettre en cause. J'ai cru comprendre que le prince Harry avait une liste civile, enfin pas comment ça s'appelle, je sais plus, une liste civile, enfin des émoluments de l'ordre de 5 millions par an. Pas mal quand même pour ne pas porter une couronne et être simplement membre de la famille.
Il y a de quoi tenir l'année.
Donc moi je propose à la reine peut-être en cas de référendum écossais, on ne sait pas, à la suite du Brexit, les Écossais ayant plutôt envie de prendre du champ,
je sens
pourquoi
provocateur.
Harry ne se présenterait-il pas à Édimbourg pour devenir le roi d'Écosse? Ça pourrait être une sorte d'héritier d'histoire.
On reste sur votre pirouette, on marque une pause, on reste sur le sujet également dans un instant, mais tout de suite, il est 20h50 sur France Info. Ce rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Le trafic des trains s'améliore encore à la SNCF pour demain avec 8 TGV sur 10 et 3 TER sur 4, 41e jour de grève sur les rails. Ce sera en revanche toujours aussi paralysé dans le métro parisien. La mobilisation contre la réforme des retraites, elle était également très suivie chez les avocats. Le procès de Bernard Prénat a dû être reporté à demain matin à Lyon. On a appris cet après-midi la mort du policier renversé le week-end dernier par un fourgon qu'il était en train de surveiller. C'était sur une aire d'autoroute près de Lyon. Un groupe de voleurs, le conducteur du fourgon est toujours en fuite. Sa victime avait 45 ans. L'IGPN, la police des polices, saisie à 3 reprises après les manifestations parisiennes de jeudi dernier, chaque fois des vidéos qui posent question sur le comportement de la police. Une femme matraquée, un tir de LBD à bout portant et un homme à qui un policier donnait des coups de poing. 220 soldats français de plus seront envoyés au Sahel, annonce d'Emmanuel Macron ce soir à Pau, à l'issue du sommet du G5 Sahel, 5 chefs d'État de la zone. Ils disent souhaiter la poursuite de l'appui crucial des États-Unis. Washington annonçait tout à l'heure le souhait de réduire le budget militaire américain consacré à l'Afrique. Et puis les victoires de la musique, 5 hommes, mais aucune femme dans la catégorie meilleur album de l'année. Les nominations sont tombées ce soir. Vincent Delerme, Nekfeu, Alain Souchon, L'Homme Pâle et Philippe Catherine. Mais c'est une artiste féminine qui est citée le plus de fois cette année, en l'occurrence la Belge Angèle, avec 3 nominations.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Maya Daboulos, sur cet accord royal, une période de transition, j'aimerais savoir ce que vous inspire ce type d'annonce aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine fin de Brexit, notamment aujourd'hui
non,
en Grande-Bretagne.
Rien du tout. En fait, c'est simplement une manière de sortir par le haut pour la couronne qui avait été un peu mise à mal par l'annonce surprise. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de constater la différence entre la manière dont l'opinion britannique reçoit un peu toute cette affaire et l'opinion internationale. Pour l'opinion britannique, ils l'ont sentiment que la couronne, et notamment la reine, n'a pas été soignée dans sa prise de parole, etc. Et donc, Or, l'AREN bénéficie encore aujourd'hui d'une opinion extrêmement favorable. Deuxième point, il y a des relations exécrables entre le couple et la presse, notamment People, en Grande-Bretagne, puisqu'ils ont fait le choix de leur faire différents procès, etc. Ouais. Et enfin, comme le disait Xavier, il y a une ambiguïté majeure sur les sujets financiers. Ils disent vouloir prendre leur indépendance financière, alors même que, effectivement, 95% de leur budget provient aujourd'hui des émoluments donnés par le prince Charles. Mais pour l'opinion internationale, c'est quand même un couple jeune, métisse, moderne, ouais, qui se lance dans une aventure entrepreneuriale, etc. Donc c'est assez intéressant et je fais le pari que dans les jours et les semaines qui viennent, les propositions qui leur sont faites de films, de postes, de fonctions, de grandes causes ne manqueront pas.
Elles vont affluer. Gilles Bernstein.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Mayada, mais elle voit le côté à moitié plein. Moi, je vais voir le côté à moitié vide. Il y a quand même une contradiction dans ce que fait le prince Harry, parce que ce qu'on aime dans la royauté, c'est que ce sont des people. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse, vous l'avez dit, une actrice américaine, donc le lieu du people, métisse. Donc, il a un peu cherché la peopleisation et la célébrité. Il n'a pas épousé une une anglaise agricultrice dans le Sussex.
Mais l'amour n'a pas de métier, mais Gilles.
Bien sûr, ni de pays, ni de métier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, il a aujourd'hui un peu ce qu'il a cherché, il veut y échapper, mais il l'a cherché. Et évidemment, par effet de halo, comme disaient les sociologues, en voulant renoncer à cette célébrité et en disant vouloir renoncer aux charges que tout ça confère sur sa tête, eh bien, il va certainement les accroître et, comme vous l'avez dit, devenir de plus en plus people, de plus en plus célèbre et de plus en plus souffrir.
Comme le fut le duc de Windsor. Ouais,
exactement, exactement. Et de plus en plus vers ce qu'il veut fuir.
Tiens, on va écouter quelques mots de ce qu'on dit la rue britannique.
Harry, chauffeur Uber. Où est-ce que je fais, balayeur de rue? Non, il a une très bonne éducation. Il sera forcément directeur de quelque chose, qui sait.
Je pense qu'il ferait un bon présentateur. Pour moi, il fera du conseil. Il aura un poste de consultant quelque part.
Yannick Halimi, malgré les difficultés que peuvent rencontrer les citoyens britanniques, comme dans tous les pays du monde, il y a des difficultés en Grande-Bretagne, on le sait. Malgré tout, il y a une forme de soutien populaire assez unanime à l'égard de la couronne royale.
Alors, oui, il y a un soutien.
On va pas revenir là-dessus. Je vous fais part d'un étonnement.
Pardon. Vous êtes étonné, mais ça, on est étonné à chaque fois que la reine intervient. On sait que c'est quand même elle qui forme une sorte de fil unitaire dans ce Royaume-Uni qui est en train de se désunir. Vous parliez de l'Écosse, on peut parler de l'Irlande, peut-être du Pays de Galles, etc. Donc c'est un fil conducteur, c'est une personnalité hors du commun, cette femme. Ça, c'est une chose. L'autre chose quand même qui est à mon avis importante que soulignait Monsieur Thorle, Jérémy Thorle, le joint, qui avait lu le communiqué de la reine d'Angleterre qui disait que par 13 fois, elle citait les noms du couple, mais les noms du couple, c'est-à-dire les deux prénoms, sans citer leur fonction dans la royauté, c'est-à-dire duc et duchesse de Sussex. Et ce qui est important, justement, c'est que pour la reine, cette histoire doit rester d'ordre privé et non pas avoir une répercussion et une signification sur la couronne en tant que telle. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que cette rencontre, ce rendez-vous, a lieu dans une des deux demeures privées de la royauté jolie, qui est Sandringham, et non pas à Windsor ou à Buckingham, qui sont les deux...
officiels.
Ce que je voulais dire pour rebondir sur votre question... Ouais. Oui, la reine est très populaire, mais elle sait, comme toutes les royautés, les monarchies, c'est pas la seule en Europe, qu'elles sont extrêmement fragiles, parce que leur principe de légitimité dans une société qui se démocratise est quand même extrêmement fragile. Et la reine n'a de cesse, peut-être depuis Diana, mais même avant, de faire en sorte qu'il y ait la transparence et la légitimité, donc due à la transparence la plus totale sur la royauté anglaise. C'est pour cette raison qu'elle met, je rebondis sur votre question, de côté, provisoirement, ce couple qui pourrait faire des siennes, et qu'après, ce couple pourrait réintégrer la lignée royale. C'est un signe de la fragilité de la royauté.
Est-ce qu'il y a une forme de fragilisation de la couronne à travers la prise d'indépendance de ses représentants?
Je crois que oui, mais ce n'est pas que cela qui fragilise la couronne. Les temps étant ce qu'ils sont.
Mais c'est bien ce que je dis.
Oui, mais on est d'accord.
Il y a un problème de légitimité fondamentale.
Mais bien sûr. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il me semble très difficile de séparer la fonction de la personne privée. Puisque cette monarchie est constituée d'individus dont le rôle politique est quasiment nul, leur identité se confond avec leur fonction.
Oui, mais là, la reine a essayé de le faire. Là, clairement, la reine, en citant les noms et pas les fonctions,
on est d'accord.
On essaie de privatiser cette affaire.
Oui, ou à l'inverse, on peut dire de déjà les considérer. C'est encore ses petits-enfants, mais ils ne font plus partie de la royauté, puisqu'elle les prive verbalement de leur titre.
Exactement. Le mot de la fin.
Un petit mot, Jean-François, puisqu'on a parlé de People. Lajli, qui est réalisateur d'un film merveilleux qui s'appelle Les Misérables, est sélectionné officiellement
magnifique film
par les Oscars. J'espère qu'il le sera comme meilleur film étranger. Je voulais le signaler.
C'est une très grande nouvelle. Jeanne Calimi, la une du Parisien demain.
Les effets pervers des tablettes et autres écrans sur le cerveau de nos enfants, enfin des vôtres.
C'est un numéro double. Donc, Jeanne Calimi, Maya Daboulos, Xavier Couture et Gilles Bornstein, merci d'avoir participé à ces informés de début de semaine. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain soir pour une toute nouvelle édition sur France Info. Bonne soirée.